Ingénu Saxoncourt. Je n'ai pas besoin de faire une préface pour indiquer le but moral de ces mémoires. Je vais raconter ingénument, et la leçon résultera de l'exemple que je mettrai sous les yeux. Heureuse mes lectrices, si elles s'instruisent à mes dépens. Ma tante, dans sa jeunesse, avait été en apprentissage pour les ouvrages de femmes chez une dame Brocard, devenue depuis veuve et pauvre. Cette femme avait une fille, très délicate, assez jolie, que ma tante avait vue tout enfant et qu'elle avait beaucoup aimée. La mère et la fille, renvoyées de leur demeure faute de payer, vinrent, dénuées, demander à Madame Bitez un logement dans la maison dont elle était l'abbayiste. Quoique assurée de n'en être pas payée, ma tante ne put se refuser à les loger. Elle les reçut avec attendrissement et leur fournit le mobilier absolument nécessaire, car on leur avait tout retenu en les renvoyant. Lorsque ces deux femmes furent installées, ma tante me dit « Ma nièce, je ne vous conseillerais pas de voisiner si Madame Brocard et sa fille étaient dans l'aisance. Nous avons besoin de notre temps, et les fréquentations sont toujours dangereuses. Mais elles sont dans la misère. Ne passons pas un jour, vous ou moi, sans leur rendre visite. Il faut respecter la pauvreté. » Je promis à ma tante de me conformer à ses vues. Je montai, de deux jours l'un, voir Madame Brocard, et je me liai insensiblement avec la fille, quoiqu'elle eût 15 ans de plus que moi. Il y avait 6 mois que l'ancienne maîtresse de ma tante était logée dans la maison, lorsqu'un jour, à mon arrivée, je les vis toutes deux fort émues. Je ne m'informais pas du sujet, mais elles se parlaient souvent à l'oreille et j'abrégeais ma visite. Je sortais quand elles me retinrent. « Auriez-vous de la répugnance pour le mariage ?» me dit la mère. « Je ne sais pas, madame, tout dépend du sujet. Au reste, si vous avez quelque chose à me dire là-dessus, parlez-en d'abord à ma tante. » « C'est fort bien, » reprit madame Brocard, qui avait été honnêtement élevée. « Mademoiselle a raison, c'est madame Bitez qui doit entendre les premières paroles. » Je descendis aussitôt. Le lendemain, comme c'était le tour de ma tante à aller chez madame Brocard, on eut toute la facilité pour lui parler. On le fit très amplement sans doute, car le soir à souper, madame Bitez me tint le discours que voici. Je ne puis jamais l'oublier. « Ma chère nièce, vous connaissez la position de votre père, le peu d'économie de votre mère. C'est une maison perdue et sur laquelle il ne faut pas compter. » Il se présente un parti très avantageux qui a parlé à madame Brocard et que je connais par moi-même, puisque l'homme qui se présente étant enfant, ses parents demeuraient au-dessous de madame Brocard. Ce sont des gens aisés, encore vivants tous deux. Le fils est enfant unique. Il aura tout, et ces gens-là jouissent au moins de 1 000 écus de revenus sans l'emploi du père. Le fils est veuf, mais il est notoire que pendant 10 ans de mariage, il a rendu sa femme très heureuse. Il a lui-même un emploi et l'espérance de celui de son père. Je ne crois pas qu'on puisse jamais rien trouver de plus avantageux. Réfléchissez-y, l'homme a 35 ans. Vous n'en avez que 19, mais on risque tout avec la jeunesse. C'est un homme fait. Il n'est pas beau, mais qu'est-ce qu'un beau qui s'aime plus et se pare avec plus de complaisance qu'une femme? C'est une pauvre chose. Cependant, tout dépendra de vous. » Tel fut le discours que me tint ma tante. Il était plein de raison, du moins en apparence, et je m'y laissais prendre comme elle s'était laissée prendre elle-même. C'est que madame Brocard, trompée, avait séduit ma tante. Personne ici n'était coupable que le monstre qui cherchait à satisfaire une passion brutale par tous les moyens possibles. Moyens ineptes qu'on pouvait aisément détruire, mais d'une part si effrontés que jamais il ne tomba dans l'esprit qu'ils fussent destitués de tout fondement. C'est donc ici où le fourbe, le brutal, le fou, le vil, le lâche, le moresquin commence à paraître sur la scène. Je ne l'avais pas encore vu, quoiqu'il m'eût remarqué, quoiqu'il m'eût déjà condamné en lui-même au malheur de lui appartenir. Hélas, ne peut-on donc éviter son sort ? Ce fut chez Madame Brocard que je le vis pour la première fois. Sa laide et basse figure me déplut. Je me dis en moi-même, je ne serai jamais rien à cet homme-là. C'était mon bon génie qui m'inspirait. Je reçus froidement ses compliments en figurique, que je trouvais très embarrassés. J'entrevis que cet homme ne s'entendait pas lui-même. Je dis le soir à ma tante, « Votre parti ne me convient pas. » Oh, voilà comme sont les jeunes filles. Parce qu'un homme n'est pas un petit maître, un damoiseau bien fat, joliment coiffé, ayant l'air impudent, il ne leur plaît pas. « Allez, allez, ma nièce, un homme est toujours assez beau quand il est honnête homme et qu'il peut nourrir sa femme, lui donner le nécessaire avec l'agréable par-dessus le marché. » Ces raisonnements faisaient impression sur mon esprit, et la vérité est que ma tante, qui nie aujourd'hui d'avoir contribué à mon mariage, en fut le premier auteur. Je n'apportais plus autant d'obstacles après les autres entrevues. Madame Brocard épuisait aussi avec moi sa rhétorique, et je me trouvais embarrassé dans des raisonnements multipliés beaucoup plus que convaincu. Je ne savais de quelles armes me servir pour me défendre. Hélas, je le sais aujourd'hui, c'était de tout nier et de demander la preuve des avantages qu'on me vantait. Toute l'illusion serait alors tombée d'elle-même et j'évitais mon malheur. Mais je ne doutais pas. Je voyais deux femmes, dont l'une était ma tante, âgées toutes deux prudentes, qui connaissaient Moresquin et sa famille depuis 30 ans, m'assuraient le bon caractère, la bonne conduite et la fortune. Je n'en doutais pas, je ne pouvais douter. Je ralentissais donc insensiblement mes refus. On obtint alors de moi de présenter Moresquin à mon père.